L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public qui vous est retransmise en direct et en public du studio 105 de la Maison de la Radio devant un public qui, de mois en mois, est toujours aussi abondant et occupe l'entièreté des places mises à sa disposition, ce qui nous réchauffe le cœur. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, et avec Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Comme vous vous en doutez, nous n'allons pas parler de l'influence de la nuit polaire sur le psychisme des lapons, mais essayer, parmi les nombreux éléments chauds de l'actualité, d'en traiter au moins deux, à commencer par la question de la tourmente au milieu de laquelle se trouve le parti Les Républicains. François Fillon, candidat de ce parti à l'élection présidentielle, est au cœur d'une polémique déclenchée par plusieurs publications du Canard Enchaîné qui l'accusent d'avoir fait profiter plusieurs membres de sa famille d'emplois fictifs. Pénélope Fillon, assistante parlementaire de son époux à de multiples reprises entre 1988 et 2013, aurait perçu un total de 831 440 euros bruts sans exercer de véritables activités. Son emploi de conseillère littéraire de la revue des Deux Mondes pour un montant de 5000 euros bruts par mois entre mai 2012 et décembre 2013 suscite les mêmes suspicions. Deux enfants de l'ancien Premier ministre, Marie et Charles Fillon, sont accusés d'avoir touché respectivement 26 651 euros en 6 mois et 57 084 euros en 15 mois en tant qu'assistants parlementaires de leur père, alors qu'ils n'étaient qu'étudiants en droit. Le Canard Enchaîné a qualifié leur activité d'évanescente au regard du bilan de François Fillon au Sénat. Une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine et une question au ministère de l'Agriculture. Le couple Fillon a été entendu par le parquet financier dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. Le candidat républicain a réuni mercredi les parlementaires de sa formation pour les exhorter à tenir 15 jours jusqu'au résultat de l'enquête. Il a dénoncé une opération de calomnie très professionnelle et une tentative de coup d'État institutionnel fomentée par le pouvoir de gauche. Il a recueilli le soutien de figures de son parti, comme Gérard Larcher, Luc Châtel, Jean-Pierre Raffarin, qui ont dénoncé une tentative de mise à mort dans une tribune publiée par Le Figaro. Le soutien à François Fillon ne fait toutefois pas l'unanimité parmi les Républicains, alors que les derniers sondages le placent désormais en troisième position derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Certains élus réclament le retrait immédiat du candidat à l'élection présidentielle pour assurer la survie du parti. D'autres appellent Alain Juppé à reprendre le flambeau, mais le maire de Bordeaux a déclaré mercredi, je cite, que quoi qu'il arrive, il ne sera jamais un plan B. Sur cette question, Thierry Pech.
Oui, quelques commentaires. D'abord sur les faits et sur les faits qui sont établis. François Fillon a bien embauché son épouse comme assistante parlementaire, puis l'a fait embaucher par son suppléant devenu député, Marc Joulot. L'autre fait établi, c'est l'emploi, ou en tout cas la rémunération par la revue des Deux Mondes de Pénélope Fillon. Ça, sont des faits établis. Et jusqu'ici, les choses sont légales. J'entends beaucoup cette objection dans le camp de M. Fillon, c'est légal. Oui, c'est légal. Légal ne veut pas dire moral, mais c'est légal. L'enquête, les investigateurs diront si ces emplois ont été fictifs ou pas, et là on entrerait dans l'illégalité, mais on n'a même pas besoin de cette illégalité pour avoir un débat de nature morale sur ce qui s'est passé. Et encore une fois... Je veux dire, moi, je n'aime pas les chasses à l'homme. C'est pas contre François Fillon personnellement, puisque d'autres députés, salariés, des membres de leur famille ou leurs conjoints. C'est une pratique qui me paraît absolument inadmissible. Et c'est pas parce qu'elle est légale qu'elle doit être défendue ou pratiquée. Dans un pays où l'opinion sur la classe politique est aussi dégradée, où la défiance est aussi haute, laisser perdurer des pratiques de cette nature à l'ombre de la loi que se font eux-mêmes les législateurs, c'est absolument inadmissible. Et je pense que nous ne couperons pas à un moment d'assainissement de notre vie public, démocratique, et que c'est absolument vital si nous voulons renouer la confiance avec les citoyens. C'est pour ça que je crois que la seule façon de sortir par le haut de cette affaire est de pousser des propositions de moralisation, de rehaussement de notre exigence morale sur la vie publique et politique. Beaucoup a été fait ces dernières années, mais on est encore très loin du compte. Et je pense qu'il faut absolument que dans les semaines qui viennent, les responsables politiques, de gauche, de droite d'ailleurs, mettent tout ça à l'agenda de la discussion. Alors, une fois qu'on a dit ça, un mot quand même sur le système de défense de François Fillon, qui est absurde depuis le début. Au lieu de s'expliquer précisément sur les faits, de décrire le travail que sa femme prétend avoir fait, il nous explique que c'est un coup d'État institutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, un coup d'État institutionnel? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Enfin, les coups d'État, on en a vu dans le passé, c'est pas ça un coup d'État. Et puis, quand bien même l'information serait venue de tel bord ou de tel autre bord, les faits sont là. C'est des faits qu'il faut parler, c'est sur le fond qu'il faut répondre. Donc un système de défense calamiteux. Un mot maintenant sur les conséquences politiques de tout ça. La première conséquence politique, c'est qu'on a une campagne sans intérêt, depuis quelques jours quand même, depuis 13 jours exactement. On ne parle que de ça. Dans 77 jours exactement, on va aller voter au premier tour. On devrait être en train de discuter des projets pour le pays, sur le chômage, sur l'intégration, sur la politique étrangère. Non, on ne parle que de ça, de François Fillon. Et un peu de Benoît Hamon, on y viendra tout à l'heure. Donc, premier dégât collatéral, la campagne ne démarre pas. Deuxième dégât, bien sûr, pour son camp. C'est absolument calamiteux pour les Républicains. Et j'en serai, ce qui n'est, comme ça ne vous a pas échappé, pas le cas, j'en serai, mais je demanderai la révocation immédiate de François Fillon pour qu'un autre candidat soit trouvé rapidement. Alors avec des procédures qui, évidemment, n'auront pas la hauteur de légitimité que confère la primaire. Mais il n'y a pas d'autre solution. Les Républicains veulent-ils traîner le boulet de l'affaire jusqu'au mois de mai prochain? Voilà. Donc je serai François Fillon, je sortirai du jeu pour son camp, pour cette campagne et accessoirement pour l'honneur.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je crois qu'on ne peut pas défendre aujourd'hui le maintien de la candidature de François Fillon. Ça paraît vraiment très difficile. Il y a une expression, je crois, qui était utilisée dans le Figaro par un chroniqueur du Figaro, Guillaume Tabar, qui parle de tragédie humaine et politique. C'est une tragédie politique, effectivement, puisqu'on voit, Thierry vient de décrire dans quelle situation se retrouve le camp. Non seulement le camp des Républicains, mais aussi la campagne électorale dans son ensemble. Et on voit aussi un candidat qui est dans le déni total de ce qui est en train de lui arriver, qui s'accroche en effet à cette légalité. Mais on voit bien, à la lecture du Figaro, je dois dire, qui est un excellent journal, est particulièrement instructive en ce moment, parce qu'on le sait bien informé sur ces milieux-là, et on voit bien à quel point l'étau se resserre autour de François Fillon. Les ténors, enfin les responsables du parti, sont tous maintenant persuadés qu'il faut qu'il abandonne, et la discussion, visiblement, se concentre maintenant sur le point de savoir qui va avoir à accomplir cette tâche très délicate de lui dire « François, il faut que tu laisses tomber ». Et visiblement, tous les regards se tournent vers ce cher Gérard Larcher, qui, pour des raisons à la fois personnelles, institutionnelles et politiques, paraît le volontaire tout désigné. Voilà, il y a cette différence qu'il faut faire, entre cette distinction entre l'aspect légal et l'aspect moral. Et on voit bien dans les retours qu'on a, et là, François Fillon, cette semaine, va devoir affronter les députés qui reviennent de leur circonscription, où ils ont passé le week-end, pour certains, à distribuer 4 millions de tracts. Et d'après ce que j'entends et ce que je lis, cette distribution se passe très mal, c'est-à-dire qu'ils se prennent les commentaires des électeurs dans la figure, et ces commentaires sont très, très, très sévères. Il y a un grand ras-le-bol de la corruption et de se laisser aller dans les milieux politiques, et pas seulement politiques d'ailleurs, mais enfin, il y a vraiment une révolte contre la corruption en tant que telle qui est assez générale et qui dépasse d'ailleurs largement nos frontières. On y reviendra peut-être tout à l'heure. L'autre dimension de cette tragédie, qui est donc cette tragédie humaine, et j'ai un peu de scrupule à m'y attarder, mais en même temps, le rôle dans lequel est confinée cette femme, Pénélope Fillon, qu'on exhibe, mais qui est muette, qui n'a pas, je suppose que si elle ne prend pas la parole, c'est qu'elle n'en a pas envie, et on la comprend, mais pourquoi à ce moment-là la montrer, l'afficher sur la couverture de Paris Match, la mettre en première ligne des meetings, c'est tragique cette affaire. Cette interview à la journaliste du Daily Telegraph dans Envoyé spécial est accablante, c'est terrible, c'est d'une tristesse. D'ailleurs, les commentaires des gens montrent à quel point la manière personnelle dont cette femme, cette mère de 5 enfants, qui dit mais si j'avais eu un cinquième, si je n'avais pas eu un cinquième enfant, j'aurais cherché un travail, alors qu'elle était officiellement censée avoir un emploi à ce moment-là, si j'ai bien compris. Voilà, tout ça est triste, affligeant, et je pense qu'il faut mettre et d'un anachronisme terrible en plus, parce qu'on peut aussi parler, mais c'est peut-être pas le lieu ici du rôle des épouses des époux en politique. C'est d'un anachronisme terrible, et il faut mettre fin, je crois, à cette tragédie. Par ailleurs, et je terminerai là-dessus, cette tragédie pose de manière très spectaculaire, une fois de plus, le problème de notre culture face à la corruption, face aux abus de pouvoir. Moi, ça me rappelle d'une certaine manière un peu l'affaire DSK, où tout d'un coup, on a réalisé qu'il se passait des choses dans les mœurs politiques qui n'étaient pas acceptables et qu'on avait toujours fermé les yeux. On est beaucoup trop tolérant sur ce genre de comportement. L'opinion publique est de moins en moins tolérante. Les électeurs ne l'acceptent plus. C'est vrai, beaucoup a été fait institutionnellement. Il y a eu la loi de 2013, il y a la création de la haute autorité sur la transparence, etc. Je crois que le problème est plus profond, il est celui de notre culture et de notre réticence à affronter la transparence dans tous les domaines.
François Bujon de Lédan. Il y a quelque chose de complètement unique dans l'affaire Fillon, finalement, parce que l'histoire de nos républiques a été ponctuée, hélas, de scandales divers et variés qui ont occupé une grande place dans les manuels d'histoire ou parfois dans la vie politique plus récente. Sans remonter au scandale de Panama ou à l'affaire Stavisky qui ont marqué la Troisième République, il y a eu plus récemment la feuille d'impôt de M. Chaban-Delmas, révélée par le même Canard Enchaîné, ou les diamants de Bokassa qui ont pesé sur des élections. Mais rien de tout ça n'est vraiment comparable à ce qui se passe dans l'affaire Fillon, me semble-t-il, qui est vraiment tout à fait nouvelle, tout à fait singulière. Et elle l'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il est issu des élections primaires. Et au fond, la novation institutionnelle que représentent les primaires et l'onction que donne aux candidats désignés le suffrage, non pas universel, mais le suffrage partisan qui a contribué à sa victoire, lui donne un relief particulier. Voilà donc quelqu'un qui a été désigné en raison de sa personnalité, de son programme, et qui se trouve empêché, après la primaire, de présenter son programme. Thierry a raison, on parle de tout sauf du programme, et par conséquent, le débat qu'il aurait pu y avoir est escamoté. Et c'est d'autant plus grave que la novation de la victoire de Fillon, me semble-t-il, à la primaire, c'était la victoire idéologique que représentait un candidat qui s'affichait comme l'incarnation des valeurs de la droite et qui en finissait avec les compromissions de la droite, soit avec le centre, soit avec autre chose. Donc il y avait là une vraie novation et elle est escamotée par une affaire qui empêche évidemment que l'on en parle. Une deuxième raison de cette singularité, c'est évidemment l'état de l'opinion. L'opinion est dans un état de totale intolérance à l'égard de ce genre de comportement. Et là, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions qui dépassent la personnalité et le cas de M. Fillon. Thierry a bien posé la question, ce n'est pas illégal, mais c'est immoral. Enfin, on peut disserter sans fin sur ce problème. Il est exact que 20% à peu près des députés à notre Parlement emploient des membres de leur famille, que ce soit un conjoint, que ce soit des enfants, etc. C'est quand même considérable. Je ne sais pas quel chiffre exact il est discuté, mais il est autour de 120 députés à peu près. C'est considérable. C'est considérable. Et l'opinion ne le tolère pas. Et ce qui m'interpelle, en ma qualité d'observateur de la vie politique et des citoyens, c'est que les élus qui sont supposés être les plus proches des électeurs ne comprennent pas
que ceux-ci ne tolèrent plus un certain nombre de pratiques qui ont cours depuis des lustres, mais qui aujourd'hui, en 2017, ne passent plus la rampe. C'est un problème considérable. Et la troisième singularité, c'est évidemment presque la plus délicate, c'est la date très tardive dans le processus électoral où cette affaire éclate. Elle éclate après la primaire, quand il y avait eu l'affaire Dominique Strauss-Kahn, par exemple, au moment des élections présidentielles précédentes. Elle était intervenue avant la primaire et l'avait empêchée de se présenter à la primaire. Là, nous avons le vainqueur de la primaire qui, à quelques semaines, finalement, de la date du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle, se trouve dans cette situation. Et cette situation est évidemment du jamais vu. On a peine à trouver des choses qui s'approchent de ça. Il y a eu un épisode dans la campagne électorale américaine récente qui était l'intervention, vous vous en souvenez, du directeur du FBI, M. Comey, à 3 semaines à peu près du scrutin, disant qu'il rouvrait l'enquête sur les emails de Mme Clinton au mépris, semble-t-il, des réglementations qui interdisent au FBI d'intervenir dans une campagne électorale. On a quelque chose qui s'apparente à cela. Et ça avait joué un rôle, qui est impossible à mesurer, mais ça a joué un rôle, bien entendu, dans la défaite d'Hillary Clinton. C'est la seule analogie qui me vienne spontanément à l'esprit. Mais évidemment, le Parti des Républicains se trouve dans une situation épouvantable. Ou bien Monsieur Fillon continue avec tous les inconvénients que vous voyez, la chute verticale dans les sondages, etc., etc. Ou bien alors, il disparaît, soit parce qu'il jette l'éponge, soit parce qu'il est déposé par un putsch, et il faut bricoler un plan B qui forcément sera en porte-à-faux par rapport à la primaire et à son résultat.
Un mot, parce que pour moi, derrière cette affaire Fillon, il y a une affaire qui risque de disparaître un peu dans les brumes, qui est l'affaire Ladré de la Charrière, qui est extrêmement illustrative des mœurs politiques et de la société de cour dans laquelle on vit. Voilà quelqu'un qui, à travers une revue dont il dispose pour ne pas payer la plupart des articles, je crois que François Bujon de l'Étang, qui écrit dans la revue des Deux Mondes, ne me contredira pas, il n'a jamais été payé pour un seul article qu'il y a écrit,
C'est le cas.
Mais qui peut disposer et qui, évidemment, ne distribue pas les salaires au hasard. Et tout ça se fait autour d'un réseau d'influence où il y a tel directeur de journal, je me souviens, pardon Sylvie, mais que Le Monde magazine avait publié, en le mettant en couverture, un portrait de M. Ladré de l'Archarrière comme un aristocrate ami de la culture, milliardaire par négligence, dont tout l'humanisme transparaissait à travers un papier que je relirai aujourd'hui sans doute avec un œil.
Mais merci pour la
publicité. Indépendamment de l'homme lui-même, je trouve qu'il est extraordinairement représentatif d'une société de cour contre laquelle aussi, et notamment dans les médias, nous ferions bien de nous armer. Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que vous avez mis l'accent sur le fait que François Fillon faisait le reproche aurait été qu'il fasse travailler sa femme. Je suis assez précis sur ce point parce que c'est mon cas. Quand j'étais parlementaire européen, ma femme travaillait pour moi. C'était autorisé à l'époque, ça l'a été interdit. J'avais de grandes discussions avec les Allemands là-dessus. Les Allemands disaient il faut que les femmes travaillent pour leur mari, mais ne se fassent pas payer. Ce que je trouvais complètement absurde sur le plan des droits de la femme. Nous en avons discuté. Je crois qu'il n'y a pas un seul journaliste à l'époque qui ne savait que ma femme travaillait avec moi, qui me disait « on a tout le temps Madame Bourlange au téléphone, on travaille avec elle, elle fait tout à fait son boulot ». C'est un métier, quand on le fait d'une certaine manière, c'est pas un métier, c'est une vie. On travaille le soir, on travaille le dimanche, et donc il est normal qu'on a une intimité très profonde avec la personne qui travaille avec vous. Alors, l'usage au Parlement européen était assez souvent de coucher avec son assistante, ce qui n'était pas plus moral.
Pas seulement au Parlement européen.
en tout cas, c'était ça la situation. Je dois dire, pour être tout à fait clair et assez précis, c'est que quand ma femme a eu son état de santé ne lui permettait plus de travailler efficacement pour moi, je l'ai congédiée. Et elle était d'accord, évidemment. Et je l'ai regrettée par la suite parce qu'elle est morte en se disant qu'elle n'était plus bonne à rien et que ça avait été vécu de façon assez pénible. Mais c'était en tout cas un travail réel. Le reproche qu'on doit faire à Fillon, c'est pas celui-là. C'est celui de ne pas faire travailler sa femme. c'est-à-dire de la payer de façon totalement fictive. Alors, les affaires de la Revue des Deux Mondes, l'affaire du compte aussi est quand même très particulière. Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir un compte quelques jours avant de redevenir député, alors qu'on n'a pas le droit d'ouvrir un cabinet de consultant, pardon, alors qu'on n'a pas le droit d'ouvrir ce genre de choses quand on est parlementaire? Tout ça accrédite simplement quelque chose de grave, qui est un double langage absolu, et c'est ça qui est intolérable. Au-delà, c'est pas une question judiciaire, on verra ce que dit la justice, mais ça n'est pas le problème, c'est un problème moral et politique, un double langage absolu entre ce que l'on fait, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et là, c'est quelque chose qui est absolument insupportable. Et je crois, j'ai vu que M. Fillon voulait se livrer à quelque chose qu'il appelle une opération vérité, qu'il s'en garde. La seule chose qui pourrait le sauver, ça serait une opération mensonge réussie. C'est-à-dire, surtout, il dit, je vais dire les sommes, mon Dieu, je vais dire les dates, pire encore. Tout ça va être abominable. En fait, on voit bien que c'est un homme qui a construit une espèce de petite pelote de son côté pour essayer d'arrondir ses fins de mois, etc., tout en tenant un discours sur le général de Gaulle qui payait son électricité et qui payait ses déjeuners quand il invitait les membres de son cabinet, n'est-ce pas, François Bugeon de l'Étang, à déjeuner.
Il payait les timbres-poste de sa correspondance privée toutes les semaines.
Oui, absolument. Donc on est dans deux univers différents. Et là, c'est le fait qu'il soit pris vraiment en flagrant délit de double langage. Et les gens, non seulement en France, mais même en Roumanie, ils ne tolèrent plus. Donc on est dans une situation de toutes ces formes de corruption, etc., ou de double langage sont inacceptables. Alors la deuxième remarque que je fais, c'est que je ne comprends absolument pas les réflexes du personnel politique. C'est-à-dire que face à cette situation, il ne s'agit pas de dire... Oh ben, il a été choisi par 4 millions de personnes. Bien sûr, il a été choisi par 4 millions de personnes, mais les faits qui sont portés à notre connaissance sont postérieurs à cela. Et là, on a comme si, mais c'est pas grave, il va continuer, c'est un coup d'État, c'est un complot, c'est clair. Il ne pense pas, en plus. Comment faire pour qu'un personnel politique se rende lui-même aussi directement solidaire de la faute de l'un des siens, alors que l'accusation est prête à bondir dans l'opinion, tous pourris, tous les mêmes, tous solidaires, etc. Donc là, vraiment, quelle que soit la solution qu'on applique à ce problème, il fallait dire assez clairement, tout de suite, dès la parution dès mercredi, dès qu'on a su que Madame Fillon, qui est effectivement une malheureuse victime dans cette affaire, il faut le reconnaître, on lui a fait signer un papier qu'elle est sur un coin de table, elle n'a rien vu dans tout cela, apparemment, mais quand elle a dit « je ne suis pas l'assistante de mon mari », les choses étaient claires. C'était un détournement à des fins personnelles d'argent qui était destiné à financer des collaborateurs. Que l'ensemble des gens de la classe politique ne disent pas « bon, ben, c'est fini il faut changer, il faut se conduire, ce que ce soit l'archer ou un autre, il faut que François Fillon comprenne que le service qu'il doit rendre est de partir. Ben, » ils ne l'ont pas fait, ils sont solidaires, et ils ne sont pas solidaires en réalité, et c'est très embêtant. Alors la troisième, je voudrais m'attarder, ce qui est peut-être plus important, sur les conséquences. Conséquences intérieures et conséquences internationales. Elles sont très graves. La conséquence intérieure, c'est qu'on risque d'avoir, si le LR ne réagit pas et ne trouve pas une solution politique, dont je dirai un mot à la fin, une solution politique satisfaisante, on risque d'avoir une polarisation entre Macron d'un côté et Le Pen de l'autre. Je pense que Le Pen sera battu, mais ça n'est pas sûr. Mais en tout cas, la politique française dans les 5 prochaines années sera à ce moment-là polarisée autour de ces deux pôles, Macron d'un côté et puis de l'autre Le Pen, et avec ceci de particulier que le LR se fracassera en deux et que donc la droite française sera durablement structurée autour de Marine Le Pen qui risque de l'emporter la fois suivante. Ça n'est pas acceptable, c'est extrêmement dangereux, et sa conséquence internationale, ça compromet totalement toute relance d'une Europe équilibrée fondée sur le couple franco-allemand. C'est comme Madame la Marquise, on commence par un petit misérable problème, et en réalité, quand on tire les fils de tout cela, on s'aperçoit que c'est l'Europe entière, dans sa capacité de résistance au trumpisme et à toutes les dérives du monde actuel, qui est mise en cause. Nous sommes donc, moi je suis extrêmement peiné, extrêmement affligé, extraordinairement inquiet. Je ne donnerai pas la solution, je pense qu'on va revenir là-dessus, mais je trouve que là, nous sommes en face d'un véritable drame qui peut emporter la démocratie et la société française.
Thierry Pêche.
Rapidement, quelques points. On m'a dit ces derniers jours, oh ben bravo la primaire, voilà à quoi ça aboutit. Mais c'est pas le problème. La primaire, c'est pas un détecteur de mensonges. Donc les gens ont voté, et très bien. Effectivement, un candidat qui a été élu par une élection à laquelle se sont déplacés 4 millions et demi de citoyens, c'est plus difficile à déboulonner qu'un candidat choisi dans une salle obscure d'un parti. Deuxième point. J'ai un peu connu le monde des revues. J'ai été proche notamment de la revue Esprit, certains le savent. Je n'ai jamais vu une revue avoir de telles capacités financières. Enfin, c'est surréaliste. C'est vraiment le fait du prince, c'est le fait de cette culture de cour dont vous parliez, Philippe, et je crois que c'est important de le souligner. Troisième point, l'effacement de François Fillon, parce que je pense qu'il doit s'effacer, je pense que s'il ne le fait pas, l'histoire le fera pour lui, va mettre en lumière les divisions de la droite. On a énormément glosé sur les divisions de la gauche, etc. Celles de la droite ne sont pas moins sensibles. Elles sont juste moins visibles. Et la primaire avait permis de les vitrifier d'une certaine façon. Mais on va voir sur l'Europe, sur la nation, sur l'immigration, il y a des camps extrêmement conflictuels à droite. Et donc c'est la situation des Républicains est vraiment très difficile de ce point de vue-là, parce qu'ils n'ont plus cette procédure de la primaire pour faire le juge de paix entre des ambitions qui ne sont pas simplement personnelles, mais qui sont aussi clivés sur le fond. Alors je sais que ça ne fait, ce que je dis là ne fait pas l'unanimité entre nous autour de cette table. Mais bon, heureusement, voilà, ça fera un peu d'animation dominicale. Dernier point, tout ça vient cautionner, vient accréditer une représentation des relations sociales qui s'est beaucoup répandue dans notre pays, dont il faut avoir une très lucide conscience. C'est l'idée qu'au fond, les relations sociales en France sont dominées par le piston. Il y a des gens qui ont des relations et il y a ceux qui n'en ont pas. Malheureusement, le plus grand nombre n'en a pas. Et regarde ce monde des gens qui ont des relations avec une colère, une rage qui s'exprime de façon intermittente, puisque souvent ces gens n'ont que le bulletin de vote pour s'exprimer. Et ils s'expriment d'ailleurs parfois en ne l'utilisant pas. Mais nous sommes de ce point de vue-là assis sur un volcan, je l'ai souvent dit. Et je voudrais qu'aujourd'hui on en ait une conscience aiguë.
Oui. Il y a toujours eu dans cette société de course ce phénomène du piston, mais il y a plusieurs façons d'avoir du piston. Et la façon contemporaine d'avoir du piston, c'est avec une arrogance et un sentiment d'impunité absolument terrible. Et c'est ça qui me fait en partie rejoindre ce qu'a dit Jean-Louis. Je pense qu'à un moment donné, la réaction à cette arrogance de ceux qui ont la chance d'avoir du piston, de ceux qui sont bénis et payés par Monsieur Lacharrière, à un moment donné, ça va prendre, cette réaction va prendre des formes qui seront extrêmement peu civil et civique. François Bujon de l'Étang.
Non, un mot sur ce thème des divisions de la droite dont parle Thierry. Je ne veux pas du tout les nier, mais ce sont, comme vous le savez, davantage des divisions liées à des rivalités de personnes et d'ambitions qu'à des problèmes de fond véritables, puisque l'unité s'était faite assez bien, finalement, derrière la candidature de François Fillon, et que là, il y a quelque chose d'autre qui devrait aider à lutter contre les rivalités ou les divisions, qui est le sens du danger. Il y a un sens profond du danger, pour l'instant, au sein de la droite et du centre. La droite et du centre voient leur candidat qui a été adoubé en très très grande difficulté, probablement dans l'impossibilité de poursuivre sa candidature jusqu'au bout. Elle voit le péril qui vient d'une part de Macron et d'autre part d'une gauche qui reprend espoir après le succès relatif, nous allons en parler dans un instant, de sa propre primaire. Elle voit beaucoup de choses et elle voit surtout l'urgence d'avoir à trouver une solution. Alors je reviens sur cette affaire des primaires qui est quand même très très importante, c'est que de deux choses l'une, ou bien François Fillon jette l'éponge, ou bien il est déposé par un putsch au sein, finalement, des Républicains, ou au sein de la droite et du centre. Mais dans les deux cas, la primaire est un élément troublant qui met le système en porte-à-faux, parce que si on doit abandonner ce qu'a été le résultat de la primaire pour revenir à la vieille tradition de désigner dans les salles obscures des instances du parti un candidat de remplacement, il est clair que l'institution qu'est la primaire va en prendre un coup, si je puis m'exprimer ainsi. Et le candidat désigné n'aura pas du tout le même lustre, sauf si, bien entendu, on arrive à convaincre le finaliste de la primaire de se représenter, ce qui est loin d'être sûr.
Si ça se passe dans des salles obscures, M. Copé...
Des salles enfumées, disait-on.
Enfumées, obscures. Sidley Kaufmann.
Mais on n'a plus le droit de fumer.
Je voudrais revenir rapidement sur l'aspect des conséquences internationales qu'a évoqué Jean-Louis. Il se trouve que j'avais une réunion cette semaine avec des collègues européens et je dois dire que notamment ceux du sud de l'Europe étaient peut-être un petit peu moins troublés, mais ceux du nord de l'Europe étaient totalement sans voix, notamment un Suédois qui disait « Mais comment est-ce que vous sélectionnez vos candidats? Est-ce que vous ne passez pas tout son passé au peigne fin, un candidat à la présidence de la République, avant de le présenter ?» Apparemment, et je n'avais pas beaucoup d'explications à lui fournir, il faut
ils
que...
Ils s'en fichent, ils ont un roi.
Il faut que...
Vous avez passé le passé de Juppé au peigne fin, il était chauve.
Bravo. Et donc, je crois qu'il est la responsabilité vraiment de ce parti d'expliquer aux électeurs comment tout cela est possible, comment tout cela ne devrait plus être possible, parce que s'il y a une élection qui est effectivement regardée à l'étranger à la loupe, c'est bien celle-ci, et notamment en Europe. Les Allemands ont les yeux rivés sur cette campagne électorale, ils ont eux-mêmes leur élection un peu plus tard cette année, et ils savent très bien que si ça tourne mal, c'est-à-dire si Marine Le Pen essentiellement la remporte, alors elle a aussi, elle n'est pas irréprochable, mais curieusement, ça fait beaucoup moins de bruit, ses affaires avec le Parlement européen. Mais ils savent très bien que si ça tourne mal, ça va aussi tourner mal chez eux. Et si ça tourne mal à la fois en France et en Allemagne, c'est terminé pour l'Europe.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, sur le problème de la primaire, je crois que je suis d'accord avec Thierry, c'est pas le procès de la primaire. La primaire est elle-même la conséquence de l'inexistence des partis politiques. Les partis politiques, toute forme d'organisation collective, des idées, des procédures, des arbitrages au sein de formations politiques est en crise partout, pour des raisons très profondes qui tiennent à l'hyper-individualisme. Regardez ce qu'était l'extrême-gauche, naguère, c'était le parti communiste. Pouvait-on imaginer une organisation plus collective? Regardez ce qu'elle est devenue, elle est entre les mains d'un joueur professionnel de la politique, plein de talent d'ailleurs, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui est détesté par le Parti communiste et que le Parti communiste a été jusqu'à présent obligé de soutenir. Regardez le Parti socialiste, M. Cambadélis ne contrôle rien. Regardez les primaires, le chef du parti, c'était Nicolas Sarkozy, il a été platement éliminé. Donc on est dans une situation où il n'existe plus rien de collectif au sein du personnel politique. Les hommes politiques sont des bricoleurs solitaires qui essaient de se débrouiller. Et la primaire est un effort assez pathétique et en l'occurrence assez insuffisant pour substituer une nouvelle légitimité. S'agissant des solutions, je crois que soit Fillon réussit à se maintenir dans ce déni et là, franchement, je ne vois pas que les Républicains puissent gagner. Ce sera vraiment la perte de l'élection imperdable. Si, en revanche, comment peut-on faire? Il faudrait que lui se convainque que il a un grand service à rendre à son camp, qui est de partir. À ce moment-là, on voit bien l'erreur des sarkozystes. L'erreur des sarkozystes, ça a été de croire qu'on pouvait, en claquant dans les doigts, faire paraître un autre candidat qui prendrait la place, comme dans le champ des partisans, qui sortirait de l'ombre et qui prendrait la place du précédent. Ils ont trouvé Baroin, qui est un garçon absolument charmant. On aurait eu une autre actrice à l'Élysée, ça aurait été pas mal. Mais je parle de la femme de Baroin. Mais évidemment, on ne s'improvise pas candidat comme ça. Et donc, ça ne collait pas. Donc, il faut... Les gens attendent quelque chose. Le journal du dimanche aujourd'hui nous dit quelque chose de très clair et de très intéressant. C'est que Xavier Bertrand, qui est un personnage dont on a assez peu parlé, est très largement plébiscité, avec 59%, comme celui qui pourrait remplacer Fillon. Pourquoi ? Parce que c'est un candidat qui est à la marge du système, parce que c'est un candidat qui a défié et vaincu Marine Le Pen, parce que c'est un homme qui représente une capacité de résistance globale à toutes ces dérives trumpistes, brexitistes, fascisantes, lepenistes, etc., communes. Alors, je ne pense pas que la grande difficulté pour Bertrand, je termine, la grande difficulté pour Bertrand, ce serait d'arriver ce serait d'être plébiscité, parce que alors là, ça sera effectivement une pagaille générale, Wauquiez sortira du bois, etc. Donc la solution, et je crois que ça serait la bonne solution, c'est de combiner l'héritage historique, qui est forcément incarné par Juppé, qui est préparé techniquement, politiquement, à cette tâche, qui fait évidemment une espèce de crise nerveuse d'orgueil, en disant « vous n'avez pas voulu de moi, ben ça sera bon ». Mais et puis, combiné avec l'appel à ce renouveau qu'est Xavier Bertrand, je pense que c'est dans un tandem de cet ordre que pourrait s'organiser une relève qui serait à peu près digne.
Bon, juste un mot très rapidement, je pense que la solution que dessine Jean-Louis est vraiment de nature à exciter les sarkozystes et donc à diviser les rangs. Non, il y a une solution simple, c'est de dire quand le vainqueur de la course est disqualifié, c'est le deuxième qui l'emporte. La légitimité des primaires, non mais sans Xavier Bertrand, il ne faut pas trop énerver les sarkozystes non plus, je dirais. Les relations de Xavier Bertrand avec Sarkozy étaient déplorables. Donc voilà, je pense que moi j'ai pas de conseils à donner aux Républicains, Dieu m'en garde, mais il y a une légitimité, c'est la primaire, et le numéro 2.
Bien, à propos de primaire, je vous propose que nous penchions sur le résultat de la primaire socialiste. Benoît Hamon l'a remporté. Comme vous savez, il annonce vouloir incarner une gauche moderne, innovante et tournée vers l'avenir. Il parle d'un futur désirable et il met au centre de ses préoccupations les questions écologiques et sociales, l'avenir et la qualité de l'emploi et le passage à une sixième république. Son projet, comme on le sait, comprend également la création d'un revenu universel d'existence, l'abrogation de la loi travail, la réduction des 35 heures ou encore la mise en place d'un 49-3 citoyen. Pendant que l'affaire Fillon rebat les cartes de la présidentielle, Benoît Hamon connaît une forte hausse dans les sondages, 10 à 11 points. Il aurait, selon l'Institut BVA, entre 16 et 17% des voix et se placerait ainsi devant Jean-Luc Mélenchon. En face du clivage du programme très à gauche qu'a fait naître au sein même du Parti socialiste, de nombreux parlementaires dits du pôle des réformateurs ont réclamé mardi un droit de retrait de la campagne de Benoît Hamon, à qui il reproche de tendre la main à Jean-Luc Mélenchon et de récuser l'héritage du quinquennat. Une tribune appelant à rejoindre Emmanuel Macron aurait déjà été ratifiée par une quinzaine de signataires, rendant plutôt incertain l'avenir du Parti socialiste. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, il s'est passé quelque chose de très intéressant à gauche. Benoît Hamon s'est imposé dans une primaire il était assez prévisible que Valls aurait beaucoup de difficultés. Il n'était pas certain que Montebourg serait devancé par Hamon. Et nous sommes dans une situation assez étrange où on attendait de la primaire une sorte de concurrence. D'un côté, on aurait eu à droite Fillon, à l'extrême-gauche Mélenchon, et puis une espèce, dans l'espace de droite de gouvernement, une concurrence entre le candidat officiel du Parti socialiste et Macron. Et là, on a quelque chose de différent. On a une droite qui s'effondre et qui ouvre donc un immense boulevard à Emmanuel Macron, qui peut s'ouvrir à droite. Curieusement, d'ailleurs, il avait fait ces derniers temps plutôt des mouvements vers la gauche. Et deuxièmement, une concurrence entre l'extrême-gauche Mélenchon et une extrême-gauche ou une gauche de rupture, de contestation, qui est incarnée par Hamon. Et donc un embarras très net de ce côté-là. Et ça, c'est une situation qui est véritablement étrange et assez inédite. Ce qui me paraît la caractéristique première de cette situation, c'est, je crois, l'allergie assez profonde, assez tenace, et finalement à la fois incompréhensible et suicidaire, de la gauche pour la clarification. Pendant 5 ans, François Hollande s'est évertué à faire une fausse synthèse entre deux gauches, une gauche incarnée par les frondeurs à qui il faisait quelques concessions tout en essayant d'orienter la politique dans le sens des réformateurs. Cette politique a complètement échoué, a conduit à sa disqualification personnelle et à son départ. On pouvait espérer que la primaire de gauche serait, si Macron y était allé, même avec Valls, serait l'occasion d'une clarification, et qu'on verrait d'un côté une gauche de gouvernement qui s'affirmerait clairement et une gauche d'opposition qui s'affirmerait clairement. Or, pas du tout. On s'aperçoit au lendemain de tout cela que nous sommes dans un système de thermostat,
C'est-à-dire que la gauche, Hamon, est en train de chauffer, de faire un petit pas en direction de la synthèse, mais pas trop, un petit pas en direction de la contestation, mais pas trop, que Mélenchon se trouve en fait coincé par Hamon, et que, d'autre part, les socialistes sont hypnotisés par la crainte de quitter la maison. Donc je me demande jusqu'à quand cette gauche qui n'existe plus dans les idées, qui n'existe plus dans les projets, qui n'existe plus dans les programmes, continuera d'exister dans la fiction, dans les têtes de ceux qui votent pour elle. Je crois qu'il y a là une forme de déni de réalité comparable et différente de celle de la droite.
Sylvie Kaufmann, merci. C'est la dame qui est à ma droite.
J'ai laissé Jean-Louis terminer sa phrase.
Quand même. Oui, c'est une... Merci.
Mais je crois qu'il met le doigt sur quelque chose d'effectivement très profond qui est le bouleversement. Je dis un peu une évidence, mais elle mérite encore d'être soulignée, qui est le bouleversement très total de ce système politique auquel on assiste de tous les côtés dans cette élection qui est vraiment décidément la plus folle de la Ve République, à tout point de vue. Et là, on voit que Benoît Hamon, finalement, est soumis à un double défi qui est totalement contradictoire, qui est d'une part, le premier défi, c'est de sauver l'unité de son parti, de rassembler, comme il dit, pour pouvoir l'amener à l'élection, et si possible au second tour. Et en même temps, deuxième défi, de dépasser son parti en s'alliant avec Yannick Jadot et si possible Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu une interview de Yannick Jadot dans Le Monde qui était où lui aussi il identifie le problème assez clairement. Il dit son score lui permet de s'émanciper et de s'inscrire dans la grande aventure politique, sinon le PS le rétrécira. Et je trouve ce terme de rétrécir très intéressant parce que on voit que Hamon est d'une certaine manière prisonnier de son parti et qu'il n'osera pas dépasser cet enfermement parce qu'il voit aussi le coup d'après. Il veut être celui qui va recomposer son parti après l'élection présidentielle. Et c'est aussi d'ailleurs ce que veut faire Manuel Valls, qui reste en retrait pour l'instant en se disant je me battrai pour le parti après les élections. Donc on est dans une situation où je suis bien incapable de prédire quoi que ce soit. Je voudrais juste... on voit que Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout ouvert pour l'instant à une quelconque ouverture. En même temps, ce qu'on voit, c'est que cette candidature, et je terminerai là-dessus, cette victoire de Benoît Hamon à la primaire, victoire très claire, a quelque chose de commun avec Emmanuel Macron, je dirais, dans la vision... une certaine vision, sinon optimiste, disons porteuse d'espoir, qu'il porte. Il a ouvert le débat sur l'avenir du travail avec cette idée du revenu universel dont on peut penser ce qu'on veut, mais il a fait une proposition. Et on voit que lui et Macron sont des candidats, et c'est peut-être pour ça qu'ils remportent tous les deux une certaine adhésion, chacun dans leur public, qui portent quelque chose, qui regardent vers l'avenir, qui veulent être porteurs d'espoir et qui s'attaquent à ce que Benoît Hamon appelle les visions sinistres, toxiques, anxiogènes. Et je crains que Jean-Luc Mélenchon, comme la droite, soit aussi porteur de cette vision toxique ou sinistre.
François Bugeon de l'Étang.
La victoire de Benoît Hamon aux primaires de la Belle Alliance Populaire est nette, effectivement, près de 59%, c'est une victoire très nette. Elle est bien dans l'air du temps, finalement. Cette air du temps qui est cette espèce de nihilisme qui a saisi la classe politique dans son ensemble. Sortez les sortants, c'est un vieux dicton, mais il se vérifie pour l'instant à chaque fois. Et voilà que après la page Hollande qui a été tournée, la page Sarkozy, la page Juppé, qui a peut-être été tournée, mais peut-être pas, comme nous venons de le dire. Voilà que la page Valls a été tournée aussi parce que il était l'héritier de Hollande, il assumait le bilan du quinquennat et que l'électorat voulait sortir les sortants et trouver quelqu'un d'autre. Donc ce quelqu'un d'autre, c'est l'outsider, n'est-ce pas? C'est l'underdog, comme diraient les Américains. C'était le personnage dont on ne pensait pas qu'il pourrait être un vainqueur, qui est un visage relativement neuf à ce niveau-là de la compétition politique et dont la radicalité des propositions proposition, semble-t-il, a séduit un électorat à la recherche de formules nouvelles, au même titre que Fillon avait gagné la primaire de la droite et du centre avec un programme d'une grande radicalité, lui aussi. Mais enfin, un programme qui préconise le revenu universel, qui préconise la réduction de la semaine de travail vers les 32 heures, qui préconise que l'on défasse la loi travail, qui a été quand même la dernière loi importante votée par le gouvernement dont M. Hamon avait été exclu. Tout ça est très extraordinaire en soi. Et c'est l'enterrement définitif à gauche de la social-démocratie à la François Hollande ou à la Manuel Valls. C'est un retour à la radicalité, à une espèce d'inflexion à gauche toute qui est là aussi bien dans l'air du temps. Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres social-démocraties, dans d'autres pays que le nôtre, on voit que le Parti travailliste britannique, par exemple, a jeté Tony Blair dans la poubelle de l'histoire pour élire Jeremy Corbyn, dont tout le monde pense qu'il n'a aucune raison, aucune chance de jamais arriver au pouvoir au Royaume-Uni, ou que le Parti démocrate lui-même avait cédé aux sirènes de Bernie Sanders pour essayer de se rénover. Donc il y a là vraiment quelque chose qui, je crois, est dans l'air du temps sur le plan de la politique générale, mais qui est aussi dans l'air du temps de la gauche qui se détourne de la social-démocratie pour privilégier une gauche utopique qui n'est pas forcément appelée à redevenir une gauche de gouvernement.
Thierry Pêche. Je ne vois pas l'élection de Benoît Hamon à la primaire comme elle a été présentée par mes prédécesseurs. Je ne pense pas que ce soit un vote purement négatif, de rejet, bien sûr que c'est une des composantes de ce vote, hein, mais je pense que ça ne rend pas compte de la spécificité de ce vote, de dire c'était le refus de Valls, après le refus de Hollande, après...
Non, mais je n'ai pas dit ça. Je crois pas qu'il y avait un vote en faveur de la radicalité de ces propositions.
Et je ne crois pas non plus que ce soit un vote de refus de la clarification. Il y a autre chose qu'il faut entendre dans ce vote, c'est le besoin d'un grand récit. La gauche a eu beaucoup de grands récits. Hein, son cimetière de grands récits est assez rempli. Il y a eu le grand récit révolutionnaire, il y a eu le grand récit communiste. Il y a eu une tentative de grand récit social-démocrate qui n'a jamais vraiment pris et qui maintenant, de toute façon, est dans une impasse technique. La social-démocratie rencontre des difficultés de fond qu'il faudrait, mais on n'en a pas le temps, développer. Et puis, il y a eu une tentative de grand récit européen. Mitterrand, en prenant le virage connu sous le nom de virage de la rigueur, avait pour compensation mis sur la table l'Europe. Eh bien, on est à court de grands récits et arrive Benoît Hamon qui nous dit « Écoutez, voilà, l'avenir va ressembler à la chose suivante, il n'y aura plus de croissance ou très peu ». Et il n'y aura plus de travail à cause des machines, chômage technologique. Donc on est dans un scénario malthusien, d'une certaine façon. Et moi, ce que je vous propose pour faire face à ces difficultés, c'est de partager. C'est des politiques publiques de partage. Le revenu universel, c'est le partage des richesses. Les 32 heures, c'est le partage du travail. Et puis pour financer tout ça, on va aussi taxer les robots parce qu'ils sont responsables de nos difficultés. Comme disait Dominique Méda dans un entretien à l'Obs, tout ça, c'est ça fleure bon le déterminisme technologique. Alors, on peut s'attarder un instant sur ces propositions quand même. Moi, je suis plutôt favorable à certaines choses que propose Benoît Hamon, par exemple la légalisation du cannabis ou le statut unique de l'actif. Je trouve que ce sont plutôt de bonnes idées. Mais je ne me retrouve absolument pas dans cette espèce de malthusianisme à visage humain, de pessimisme souriant. Je pense qu'il faut prendre les sujets les uns après les autres et les expliquer. On n'aura peut-être pas le temps d'aller au fond, mais le revenu universel. D'abord, quand on regarde ce qu'il propose, il n'a rien d'universel, son revenu universel. Il n'est pas du tout inconditionnel. En gros, dans la première phase, qui est la seule qui soit à peu près certaine s'il était élu, il augmenterait le RSA de 10% et il créerait un revenu de base pour les 18-25 ans. C'est absolument pas ce qu'on pourrait appeler un revenu universel. Sur les 32 heures, c'est pareil. Au fond, il dit on va poursuivre l'effort historique, l'œuvre historique de la gauche de réduction du temps de travail. Oui, enfin, ce sera par la négociation d'entreprise. Cette même négociation d'entreprise que ses partisans critiquaient dans la loi El Khomri, en disant, peut-être à juste titre d'ailleurs, mais si les choses se passent là, il y aura des salariés bien représentés et d'autres pas, des salariés bien défendus et d'autres pas. Mais on a envie de lui retourner la difficulté et la politesse. Sur la taxation des robots, un mot. Il y a aujourd'hui en France, dans le secteur manufacturier, 127 robots pour 10 000 salariés. Il y en a 300 en Allemagne, il y en a 500 en Corée du Sud, où le travail ne semble pas s'être raréfié. Expliquez-moi l'erreur.
On est d'accord, Thierry. Hein.
L'intensité capitalistique. Mais je ne parle pas que pour vous, Jean-Louis, vous savez. Je vous parle à vous, mais pas que pour vous. Voilà. J'ai l'impression que d'autres personnes nous écoutent. Vous me le confirmez, Philippe ?
On me l'a dit, mais...
Il y a des gens dans la salle, là, par exemple.
Ça, oui, ça, on les voit. Après, de l'autre côté, on ne sait pas.
Quand on pose une question, on répond.
D'accord. Alors, l'intensité capitalistique de l'économie française, combien il faut de capital pour créer 100 euros de richesse, par exemple ? Si ce que dit Benoît Hamon était vrai, on devrait constater que cette intensité augmente. Elle baisse. Si on regarde les choses sur 30 ans, elles baissent. Le problème, c'est pas de taxer les robots, c'est d'investir dans les robots. Si on veut sauver l'industrie française, c'est ça qu'il faut faire. On en a plutôt pas assez que trop. Bon, donc tout ça rend les propositions en question de Benoît Hamon, à mon avis, très friables. Mais n'oublions pas une chose, c'est que l'électorat de gauche a besoin d'un grand récit et que toutes les autres propositions de gauche ne lui apportent pas cette satisfaction. Donc si vous voulez incarner une proposition de centre-gauche progressiste, eh bien il faudra qu'elle sache s'habiller pour séduire cet électorat, ce qu'elle ne sait pas faire.
Jean-Louis Bourlange m'avait raconté que quand il siégeait au Parlement européen, il avait le plaisir d'entendre le président dire « La parole est à Monsieur Giscard d'Estaing pour 2 minutes ». Eh bien la parole est maintenant à Jean-Louis Bourlange pour 2 minutes, mais pas une de plus.
Non mais simplement, je suis absolument étonné d'entendre Thierry, parce que tout ce qu'il dit est vrai et totalement contradictoire. Si le récit doit être, le grand récit salvateur de la gauche, doit être fondé sur des idées fausses, c'est dramatique. Et quand vous dites, Thierry, qu'il n'y a pas besoin ou il n'y a pas de clarification, si Hamon, quand il propose cette chose sur les robots et sur 1000 autres choses, effectivement, clarifie le discours de gauche dans un sens profondément irréaliste, est profondément alternatif à des positions qui seraient, par exemple, celles de Macron. Et ce qui me fascine, c'est que vous n'acceptiez pas, les uns et les autres, à gauche, cette réalité. Vous n'acceptez pas de voir la division de vos consciences. Je n'en veux qu'un seul exemple. On passe sa vie à dire « Monsieur, l'opposition entre Hamon et Valls, c'est l'opposition entre l'utopie et le réalisme. » Un peu comme Clémenceau qui disait « Les verbes de Monsieur Jaurès ont ceci de particulier, qu'ils se conjuguent exclusivement au futur. » Mais pas du tout. C'était pas l'utopie et le réalisme. Ce sont deux visions de la société. Une société ouverte, une économie ouverte, une Europe construite, une justice et une croissance fondée sur l'entreprise, ou l'inverse. Il y a un choix. On est dans un choix kantien, à haute, ou bien, et non pas dans une affaire de degré. Et je m'étonne que ça ne pénètre pas profondément dans les consciences de gauche actuellement.
Thierry Pêche pour 45
secondes. Je voudrais vous rassurer, Jean-Louis, sur l'état de ma conscience personnelle. Non, ne se trouve, vous n'êtes pas inquiet, non, mais vous sembliez...
Il y a d'autres gens.
Vous sembliez me parler, donc je vous réponds. Je ne me sens pas divisé. Je maintiens simplement une chose, c'est que l'électorat de gauche, y compris l'électorat de centre-gauche, a besoin d'avoir une perception organisée de l'avenir et une perception un peu excitante de l'avenir. C'est vrai aussi à droite. Quand le général de Gaulle nous vendait la grandeur, il fallait quand même du culot pour parler de grandeur française au sortir de la guerre. Bon, eh bien, il nous vendait un grand récit. Ça n'est pas spécifique à la gauche.
Bon, l'heure a sonné des brèves, mais étant donné que Foutit et Chocolat nous ont pris beaucoup de temps à faire leur duo, je vais sacrifier la mienne et juste dire avec quel plaisir, avec intérêt, j'ai dit tout à l'heure dans quelle tristesse pouvait plonger la lecture ou l'écoute ou la vision des médias, mais je lis avec beaucoup d'intérêt toutes les semaines cet hebdomadaire qui est maintenant un peu plus d'un an, qui s'appelle Le 1, qui est en plus une présentation tout à fait originale, qui est fait en grande partie par d'anciens collègues du Haut Monde de Sylvie Kaufmann, et donc je voudrais en recommander la lecture. Sylvie Kaufmann, voilà précisément. Nous avons
d'ailleurs apporté, sans le savoir, le dernier numéro sur le revenu universel.
C'est sur le revenu universel.
Je dis pour les auditeurs que Philippe est en train de montrer le 1.
Oui, voilà, de déplier le 1.
Qui s'intitule « Revenu universel, Kézako ».
Voilà. Alors, moi, je voudrais vous inviter à lire, en plus du 1, ou à relire un des livres de Philip Roth, « Le complot contre l'Amérique », qui a été écrit en 2004, publié en 2004, et y compris en français un peu plus tard, et dans lequel il imagine qu'en 1941, ce n'est pas Roosevelt qui prend le pouvoir à la Maison-Blanche, mais Charles Lindbergh, qui le célèbre aviateur, qui a été le premier à relier New York à Paris en solitaire et sans escale, mais qui est surtout un isolationniste dont le slogan est « America first » et qui commence par conclure un pacte de non-agression avec Hitler. Et ce roman reprend une actualité absolument terrible aujourd'hui avec l'installation de notre cher Donald Trump. Philip Roth, qui n'écrit plus de romans, continue quand même de s'exprimer, heureusement, et notamment il a répondu aux questions du New Yorker récemment là-dessus, et je vous invite aussi à les lire, car c'est très instructif.
François Bujon de l'Étang.
Puisque Philippe parle du 1, que Sylvie parle de Trump, et qu'il me reste à peu près 3 secondes et demie, je voudrais en profiter pour recommander, en marge du 1, l'hebdomadaire publie des petits livres qui sont des recueils d'articles, et celui qui a été publié en parallèle au numéro du 1 daté du 18 janvier s'intitule « Pourquoi Trump ? Comment comprendre les fractures de l'Amérique ?» Et dans des petits articulés qui ont souvent une page et demie, vous trouverez diverses notations sur les divisions profondes de la société américaine qui sont extrêmement intéressantes.
Thierry Pêche.
Musique ou littérature ?
Musique.
Bon. Alors, la musique. J'ai découvert le truchement d'un ami une saxophoniste norvégienne qui s'appelle Anna Paulsberg, dont je vous recommande vivement l'écoute. Anna Paulsberg Concept, c'est le nom de sa formation. Il y a un album récent qui s'intitule Eastern Smiles. Vous y trouverez vraiment un talent très particulier, un sens du rythme fantastique et en même temps de la retenue dans l'exercice. C'est très beau.
Saxophoniste, vous avez dit ?
Norvégienne, oui, je sais.
On a l'impression d'un oxymore, mais en même
non,
temps, vous avez
tort. Non, vous avez tort. Non, mais quel Non, attendez. La scène jazz, la scène jazz scandinave. Demandez à François Bujon, qui la connaît bien.
C'était une facilité et de très bonne tenue. Permettez, avant de passer la parole à Jean-Luc Bourlange pour 22 secondes.
J'avais deux brèves, j'en aurai qu'une et très rapide. Je voudrais dire l'intérêt que j'ai pris à la lecture du livre d'Elisabeth Badinter. Le pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d'Autriche, 1780, l'impératrice reine, parue chez Flammarion. Je n'aborde pas... Marie-Thérèse est un personnage qui m'a toujours fasciné. Je ne l'aborderai pas personnellement, je ne l'aurais pas abordé comme Elisabeth Badinter, qui s'interroge gravement sur une femme au pouvoir, le conflit entre la femme aimante et trompée, la mère de famille, la souveraine dans un pays, dans une civilisation dominée par le pouvoir masculin. Je crois que l'Autriche, mais c'est quand même très intéressant de rencontrer le destin de cette femme, qui est un destin insuffisamment pris en compte par l'historiographie française. Certes, il y a des gens qui s'en sont occupés. Victor Lucien Tapier a fait des livres très intéressants sur Monarchie et Peuple du Danube. Jacques Bainville faisait la Défense et Illustration. Marie-Thérèse. Mais il faut s'intéresser à Marie-Thérèse d'Autriche et le livre d'Elisabeth Badinter est une très bonne porte d'accès.
Et si vous vous intéressez à la gastronomie, vous écouterez avec intérêt Alain Crugère et vous verrez qu'il y est question de crêpes au plâtre, de toast sur radiateur et de morue aux fraises. Mais c'est parce qu'il est question de Gaston Lagaffe à l'occasion de l'exposition qui a lieu actuellement au Centre Beaubourg. C'était l'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Éric Boisset, Fabien Capel et Mathieu Leroux. Nos remerciements vont au public qui a rempli cette salle et qui nous a écoutés avec indulgence et avec attention. J'espère vous retrouver la semaine prochaine.